Ça se compte en cheveux gris. On a un peu l'impression.
Regarde des photos de quand j'ai commencé à Charleroi en 2012. Bah ouais. Regarde maintenant.
Bah ouais, c'est pour ça que je le dis.
Il y a quelques joueurs qui sont. Il faut mettre des noms de joueurs là et des noms de joueurs là.
Les ballons sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir, un bonheur de vous accueillir chaque semaine pour parler de football, pour parler de ballons, pour parler de Belgique et pour parler de ce que on aime tant avec, comme d'habitude, mes chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Quentin, comment ça va?
Ça va bien, content d'être là. On va parler de football. Ça diminue la phase classique, on est bientôt à la fin. La dernière journée va être intense, que ce soit pour la zone rouge ou pour les Champions Playoffs. Donc ça va être beau.
Et ça va être le gros sujet, effectivement, aujourd'hui. Qui finira à cette fameuse sixième place? Qui ira chercher les Champions Playoffs? C'est évidemment un sujet qu'on abordera. Thomas!
Désolé, j'étais en train de...
Mais je vois, on est dissipé ce soir. Enfin,
ce soir. Bah là, de retour, hein, très content, comme d'habitude, avec un invité de taille, comme d'habitude aussi, j'ai envie de dire. Donc, content d'être là.
C'est un bonheur. Et tu étais à... Paris-Reims,
ouais, j'ai vu le seul et unique Teddy Thomas en vrai. Première fois que je le vois d'aussi proche, j'étais très content.
On m'a dit que son crâne était aussi grand que le monde, est-ce que c'est
très
vrai?
Luisant, très luisant, vraiment, parfait, j'étais refait. Hein,
on l'aime beaucoup Teddy Thomas, bien sûr, on l'embrasse et on parlera évidemment de Will Steel parce qu'on a le premier homme ici qui lui a donné sa chance, Yannick Ferreira, comment ça va?
Très bien, merci, content d'être là.
Yannick, c'est incroyable parce que en regardant, on en parlait d'ailleurs en off avec Quentin, en regardant un petit peu ton CV, mais on s'est dit, mais ce mec, il est allé partout, il connaît à peu près tous les clubs, il sait comment ça se passe en Belgique. Je me dis, mais c'est absolument dingue, quel bonheur de t'accueillir ici.
Et c'est un plaisir.
C'est fou, quoi. C'est dingue. Et puis, un parcours aussi qui est quand même assez atypique. T'as quand même été entraîneur assez jeune hein, aussi, hein, du côté de Saint-Tron, de Charleroi, ouais. Etc. Ouais. Je voulais te demander, bon... Tu restes sur une période du côté de la Saudi Pro League où tu as été assez rapidement exonéré, mm-hmm. mis dehors, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours quand tu le regardes un peu avec un peu de recul?
Mon parcours total jusqu'à présent?
Des aventures que tu as vécues, est-ce qu'il y a des choses que tu peux retenir, une espèce de philosophie, une morale?
Oui, reste fidèle à toi-même et à tes principes tout le temps. Sois prêt dans cette jungle parce que quel que soit le travail que tu vas faire, un moment si l'attaquant frappe à côté du but, tu seras peut-être mis dehors. Il faut pouvoir essayer de vivre en paix avec ça. Alors c'est assez violent humainement. J'arrive pas toujours à vivre en paix avec ça, donc je sais qu'il faudrait, mais j'arrive pas toujours. Mm-hmm. Mais voilà, nous les entraîneurs, on doit faire de notre mieux, travailler avec le matériel qu'on a à disposition. Et au final, on va dépendre des joueurs parce que le football appartient et appartiendra toujours aux joueurs.
Qu'est-ce qui a toujours changé depuis que tu n'es plus entraîneur en Belgique par rapport à maintenant la situation? Tu la prends avec du recul. Est-ce que tu vois des choses, des lignes qui ont bougé, des manières de recruter, une manière d'entraîner qui ont changé également, une philosophie peut-être que tu as pu amener et qui maintenant se développe? Comment est-ce que tu vois un peu les lignes qui sont en train de se bouger dans le championnat de Belgique?
Pas spécialement le championnat de Belgique, mais dans le foot en général. Ouais. Les gens, aujourd'hui, tout le monde... peut être entraîneur, faire des analyses, mettre des threads sur Twitter. Et tout le monde peut faire beaucoup d'analyses de tout. Et des fois, je lis des trucs, je me dis, oui, mais je suis peut-être pas à la page parce que le mec, il a fait une analyse avec 12 000 mots sur telle ou telle équipe. Or, il y a beaucoup plus de plateformes maintenant. Tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut parler. C'était pas le cas avant. Donc maintenant, il y a peut-être plus de spécialistes, entre guillemets. Mm-hmm. Mais le foot, ça reste pas, enfin, c'est pas toujours des mots sur Twitter, quoi. C'est un travail au quotidien. C'est pas toujours facile. C'est pas aussi simple que ça paraît. Quand on dit, ah, voilà, telle équipe appréciée de cette manière-là, voilà, il faut le faire. Ah, mais il faut le faire. Ça prend du temps pour le faire. T'as peut-être pas les joueurs pour le faire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en compte quand on est entraîneur.
T'as souvent été mis en avant pour tes idées. Beaucoup. Mm-hmm. Dans le championnat de Belgique. Et parfois, ça t'a aussi, malheureusement, valu quelques bricoles. Le fait de prendre des risques. Est-ce que toi, tu conçois le métier comme ça? Tu ne te vois pas entraîner sans prendre des risques et en allant toujours au bout de tes idées? On connaît un grand maître du football qui est comme ça, qui en est quasiment devenu dictatorial, mais qui est une légende, Marcelo Bielsa, qui a été droit dans ses bottes jusqu'au bout, jusqu'au fond
j'allais,
de ses
j'allais
idées.
J'allais y venir, j'allais en parler.
Voilà, est-ce que toi, tu t'inspires de ces idéaux-là?
Mais quelque part, il dit souvent, lui, Marcelo Bielsa, qu'il faut donner quelque chose aux gens. Alors bon, faut pas donner quelque chose aux gens et à côté de ça ne pas avoir de résultats. Le but, ça reste quand même de gagner. Mais je veux dire, je vais prendre un exemple. On est mené 1-0. C'est la 65e ou 70e minute. Pourquoi je devrais attendre la 85e pour faire monter un attaquant? Il va faire quoi le mec en 5 minutes? Donne-lui 20 minutes. Il aura peut-être une chance de se mettre dans le match et de marquer. Donc moi, j'ai aucun problème quand mon équipe est menée à faire tous mes changements et n'avoir plus de changements à la 70e, quoi. J'ai aucun souci avec ça. Alors on m'a déjà dit, ouais, mais si jamais il y a un blessé après, ouais, mais il fallait prendre le risque. Voilà. Ouais. J'ai déjà perdu des points comme ça. J'ai déjà gagné des points comme ça aussi. Donc voilà, c'est des risques que je veux prendre. Et puis, j'aime que mes équipes finissent les actions avec beaucoup de personnes dans les 16 mètres parce que j'ai envie qu'on attaque, j'ai envie de donner des trucs aux gens. J'ai pas envie d'un football passif. J'aime pas ça. Et si au final, parfois c'est risqué, ouais, parfois c'est risqué. Mais voilà, je préfère une équipe qui presse et qui va prendre un peu de risques qu'une équipe qui va attendre. C'est emmerdant pour les joueurs pour les gens qui regardent, quoi.
Et puis, comme dirait Bielsa, après, le problème, c'est qu'il faut tran el veneno. C'est-à-dire avaler le venin pour pouvoir ensuite comprendre un petit peu et avancer. Quelque part, c'est récupérer aussi, je dirais, les énergies négatives sur l'entraîneur pour permettre aux joueurs aussi d'être un peu plus libérés. Mm-hmm. C'est aussi ce que tu as fait parfois dans ta carrière, notamment au Standard. Je pense notamment à une période que j'ai beaucoup suivie. J'étais présent lors de la finale de la Coupe de Belgique que tu as gagné. Un des derniers titres du Standard, c'est sous l'ère de ce monsieur. Mettez-lui un peu de respect, s'il vous plaît. 2015-2016, évidemment. De 1 ou 2-0
1-2. Contre le club de Bruges.
Contre le club de Bruges.
Un goal de Ivan Santini.
Voilà.
À la 88e.
C'est ça, ouais.
Un des seuls mecs qui a réussi à faire marquer.
Non, mais il repris en Arabie Saoudite après, d'ailleurs. Il est plus là-bas maintenant.
Il est plus là. Mais il est en Croatie maintenant.
Ouais, c'est ça. Mais dans mon premier club en Arabie Saoudite, là, Al Fateh, je l'avais repris la dernière saison. Et bien. Un bon mec. Au début, c'était un peu tendu avec lui parce qu'il jouait pas. J'arrive dans un noyau où je joue avec un attaquant, il y a 4 attaquants. Tu veux un petit peu donner la chance à tout le monde, ça tourne pas, t'en essayes un, tu peux pas le sortir après un match, donc tu lui donnes 2-3 matchs. Pendant ce temps-là, les autres attendent en tribune. Mais j'avais quand même Renaud Aymon, Santini, Mohamed Yatara, plus encore un quatrième, je sais plus qui, mais bon, il y avait du monde, quoi, là-dedans.
Il y avait de la qualité, effectivement, à cette époque-là, au Standard de Liège. Thomas, je sais que t'apprécies beaucoup le stade de Reims, on l'a dit, t'étais au stade pour le match du PSG contre les Rémois. Il y a un homme qui a été mis effectivement ces derniers mois sous l'actualité, c'est Will Steele, et qui, comme premier mot quasiment, a cité le nom de Yannick Ferreira en lui disant merci pour tout ce que tu as fait, merci quelque part publiquement de l'aide que tu m'as donnée, de la main que tu lui as faite. Ça aussi, c'est aussi une de tes grandes qualités, hein, Thomas, c'est le fait de faire confiance sans avoir besoin quelque part d'autre chose que ta vision, ton idée. Et sa volonté quelque part de faire bien les choses en disant je crois en toi, je vais te mettre devant, quoi.
Mais clairement ça, et ça, c'est marrant que tu dis ça parce que Will Steele, c'est quelqu'un comme ça aussi, c'est vraiment quelqu'un qui donne confiance à quelqu'un. Il a l'exemple parfait dans son noyau actuel, c'est Thibaut Desmet qui jouait au Beerschot à l'époque, qui était très nul, on va le dire tel que c'était. Même les supporters ne l'appréciaient pas du tout, ils se moquaient de lui carrément. Et là aujourd'hui, il est quand même titulaire en Ligue 1, il a donné confiance à ce joueur, il a cru en lui. Et aujourd'hui, c'est un autre joueur complètement à niveau de la Ligue 1.
Ouais, et justement concernant Will, toi qui vois son parcours, bon, je me doute effectivement que ça doit te faire plaisir, que c'est aussi quelque part un petit peu le fruit, tu peux te dire, il y a une partie des idées que je lui ai données, que je vois quelque part sur le terrain, etc. Mais le fait qu'il te la rende de cette façon-là, ça en dit aussi beaucoup sur la relation humaine que vous entretenez, quoi.
Mais c'est surtout ça. J'ai toujours essayé de créer ça avec tous mes adjoints et avec Will encore plus parce que, en fait, ma première saison à Saint-Tron, c'était 2013-2014. Je le voyais parfois dans le stade, on s'entraînait sur le synthétique au Stadion, et il était parfois là à voir les entraînements, etc. Donc tu le reconnais, un grand roux comme ça. on disait bonjour de loin, ou il parlait français, on s'était déjà parlé 2-3 fois, mais sans plus. Et puis, début de la saison suivante, on s'entraînait au centre d'entraînement et il y avait une centaine de mètres entre le terrain et mon bureau. Donc après, il était là, il a regardé l'entraînement. Et puis je rentre vers mon bureau et il vient m'accoster, il dit voilà, je m'appelle Will, etc. Donc on s'était déjà parlé. Et il me dit, est-ce que je pourrais te suivre ou suivre l'équipe pendant 2 semaines? Je pourrais peut-être vous apporter des trucs au niveau analyse, etc. Est-ce que je pourrais peut-être aider? Je dis ouais, pourquoi pas. Donc il nous suit pendant 2 semaines, c'était en préparation. Et au bout de 2 semaines, je vois que les rapports qu'il fait, etc., c'est intéressant, ça peut nous aider. On n'avait pas d'analyste, on faisait ça nous-mêmes, l'adjoint et moi. Et donc, je dis au club, écoutez, voilà, le garçon, là, il a 22 ans à l'époque. Est-ce qu'on peut lui donner un petit contrat pour qu'il reste avec nous, le minimum pour qu'il puisse, ah non, il n'y a plus d'argent pour ça, etc., il n'y a plus de budget. Je dis, bon, bah, ok, bah, alors, et si moi je le paye, on peut le garder. Oh, tu fais comme tu veux, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait pendant l'année, toute l'année, je lui donnais un petit peu d'argent, ça, tous les mois, histoire qu'il puisse payer son essence, etc., quoi, tu vois.
Tu l'as carrément aidé financièrement, quoi.
Non, mais c'est normal, il venait faire un travail.
Mais ouais. Qui fait ça, personne fait ça.
Non, c'est travail mérite salaire.
Bravo. Enfin, je suis un peu étonné, quoi.
Voilà, tout travail mérite salaire, c'est exactement. Ça. Et puis, c'est une bonne personne. Il vient, et moi, à son âge, j'aurais aimé que quelqu'un fasse ça pour moi. C'était son rêve d'être dans un staff pro. Il y était à 22 ans. Donc, il doit quand même pouvoir suivre, il doit manger, il doit rouler.
Ouais.
Et donc, c'était le minimum, quoi. Et donc, voilà, on a été ensemble toute la saison. On a été champion cette année-là avec Saint-Tron. On commence la saison en D1 l'année après, parce qu'on monte en D1, on commence super bien.
Contre Bruges, non?
On bat Bruges 2-1, on bat Genk 3-1 chez nous, on va gagner à Mouron. Donc, on a 10 sur 15 pour commencer. Et puis, le Standard vient me chercher. Je pars, je prends Will avec. On gagne la coupe toujours avec Will et en fait on est restés amis, on est partis en vacances ensemble, etc. Et moi je voyais plus comme un petit frère et je lui transmettais ce que je savais, quoi. Mais lui de son côté il le rendait bien, il bossait, il était disponible pour tout le temps. Alors moi je voyais le rôle de l'analyste et je le vois toujours d'ailleurs comme ça, pas seulement comme un mec qui reste dans le bureau. Il était sur le terrain tous les jours, il voyait les entraînements, il s'imprégnait des trucs, il commençait petit à petit à faire un rondo avec les joueurs ou un petit truc individuel, etc. Ouais. Et donc petit à petit il a commencé comme ça sur le terrain. Et donc je suis pas tout, mais je sais, beaucoup de gens me disent, ah oui, il a de nouveau parlé de toi, etc. Mais c'est une relation fraternelle qu'on avait, quoi. J'étais pas son boss, j'étais son grand frère.
Tu vois, c'est ça qui est fou avec Will. C'est que, et je pense que ça doit être quelque chose certainement avec lequel, dont vous avez parlé. C'est que tout est un jeu quand il fait les entraînements, tout est construit sous le, et c'est comme ça aussi qu'il arrive à passer ses messages à ses joueurs sous le mode de la récréation. Est-ce que c'est quelque chose que tu lui as appris toi ou c'est un truc il y a aussi beaucoup le discours de dire Will Steele aujourd'hui les copains avec ses joueurs, etc. Mais c'est parce que dans son mode d'entraînement il est tout le temps dans le côté un peu jouette copain avec les joueurs et que les joueurs ensuite leur rendent bien parce que ils sont dans une atmosphère aussi où le plaisir règne.
Mais c'est pas que ça non plus, parce que le degré d'exigence, que ce soit de Will quand il entraîne ou de moi quand j'entraîne, degré d'exigence est très très élevé. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on fait énormément. Nous-mêmes, on est très très exigeants envers nous-mêmes et donc, on exige la même chose des joueurs, mais ça n'empêche pas. Moi, je dis toujours aux joueurs, appelle-moi Yannick, appelle-moi coach, appelle-moi comme tu veux, dis-moi tu, il n'y a aucun problème. Mais quand on bosse, on bosse. Et quand on travaille, on travaille.
Mais tu mets donc en opposition le plaisir et l'exigence, toi?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que quand on peut par exemple être un entraîneur qui va réclamer et qui va essayer d'entraîner les joueurs dans un niveau d'exigence très haut, mais tout en mettant aussi toujours l'accent sur le fait qu'ils prennent du plaisir pendant qu'ils exécutent ce qu'on leur demande pendant les sessions. Tu vois ce que je veux dire?
Mais le truc, c'est que j'ai appris. En fait, j'ai une formation de prof d'éducation physique aussi.
D'accord.
Donc je suis bachelor en éducation physique. Et le truc qui m'est resté le plus de cette période d'études là de 3 ans, on m'a appris quand tu donnes un cours de gym. Et moi, je le transfère au football, vu que je donne plus cours de gym. La règle est des 3 A. Activation, donc les joueurs doivent être en mouvement, ils doivent bouger tout le temps. Apprentissage, ils doivent apprendre des trucs quand ils donnent une séance. Et amusement.
Ouais, voilà.
La règle des 3 A. Quand tu as ces 3-là, tu as une bonne séance. On t'apprend ça pour les cours de gym.
Bien sûr.
Et moi, tu transposes ça au football, quoi. Ouais. Donc, j'essaie que les mecs apprennent des choses tous les jours, qu'ils bougent, qu'ils soient en mouvement, parce que la condition physique, ça reste le plus important. Et qui s'amusent, qui prennent du plaisir, parce qu'ils prennent pas de plaisir à jouer. Je veux dire, on donne une équipe qui est censée être dominante. Mmh. Et toi, tu leur dis, les gars, quand on n'a pas le ballon, on va attendre devant nos 16 mètres un bloc compact là dans notre camp. Mais non, fais-les jouer. Quand on a le ballon, long ballon en profondeur, parce que l'attaquant court vite, ça. Mais non, fais-les jouer. T'as des milieux de terrain qui veulent le ballon. Donne-leur le ballon, ils doivent prendre du plaisir. Les latéraux, vous passez par la moitié de terrain. Mais laisse-les finir dans les 16 mètres tous les deux, tu vois.
Ouais.
Tu dois mettre des trucs en place pour les couvrir s'ils y vont tous les deux.
C'est ça.
Donc moi, je vois les choses comme ça. Les mecs doivent prendre du plaisir. Et si eux prennent du plaisir, les 40 000 autour, ils en prendront
ça,
aussi, quoi.
Mais ça me fait du bien d'entendre des discours comme ça. Quentin, je sais pas pourquoi. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Ça fait du bien d'entendre un entraîneur qui parle de plaisir, de ballon, de jeu. Ce que, oui, s'il fait, mais ce que Yannick nous explique aujourd'hui, quelque part, c'est un peu camouflé par cette espèce de dynamique de résultat où il faut tout le temps, à un moment donné, penser d'abord à gagner 1-0. À un moment donné, si tu gagnes 5-4 et que tout le monde a kiffé, c'est bien aussi, quoi.
C'est exactement ça. Et c'est, franchement, Yannick a tout résumé en disant, si il y a le plaisir sur le terrain, tu vas avoir le plaisir dans le stade. Ouais. Et quand tu vas au stade, quand tu payes ton billet et tout, t'as envie d'avoir ce plaisir-là. Et les joueurs, ils vont, tu vois, ça se répartit, ça se communique comme ça. Donc ouais, clairement, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et on devrait avoir beaucoup plus de coachs, je trouve, qui ont cette vision-là. Parce que là, sinon, on va au stade pour un 0-0 ou un 0 où il y a eu aucune occasion, il y a eu aucun tir cadré, il y a rien eu. Ben, honnêtement, on s'est fait chier, quoi.
Mais aujourd'hui, t'as les résultats, d'accord? On peut parler des équipes qui a des résultats, mais aujourd'hui, dans notre émission, quand on met en avant une équipe, on la met en avant pourquoi? Pour le jeu offensif, pour le plaisir qu'elle nous donne, et bien pour sûr. Quelque part aussi l'entrain qu'elle a à jouer. Thorsten Fink et le STVV, Miron Muslic et le Cercle de Bruges, le KV Mechelen maintenant sous Besiktas, c'est pas les tops, hein. Mais on parle des équipes qui, à un moment donné, osent des choses, proposent du plaisir et montrent quelque chose
donne
à voir.
Donne quelque chose aux gens.
Voilà.
Ils payer leur place.
Tu te mets même devant ta télévision, tu regardes le match, ah, tu prends du plaisir. Ouais. J'ai regardé un Manchester City Liverpool, j'ai pris du plaisir. Ça a été un, ça allait attaque, ouais, attaque d'un côté. Folie. C'était un beau match. Franchement, des fois, je me pose sur un match de Jupiler Pro League. Waouh, limite, j'ai envie de m'endormir, parce que des fois, c'est mort.
Pas que Jupiler Pro League.
Ah
ouais,
non, bien sûr,
j'ai suivi tout à un moment donné la Ligue 2.
Ouais, la Ligue 2,
tu vois des matchs, tu dis, les mecs, jouez!
Ouais, non, ça fait.
Jouez!
C'est horrible.
T'as l'impression qu'ils veulent juste pas perdre.
Voilà, mais le truc, c'est que, ouais, apparemment, l'environnement est comme ça, et ça va bien comme ça. Les entraîneurs restent en place tant qu'ils perdent pas. Alors, t'as des équipes qui font des 0-0, des 1-1 chaque semaine. Ah ouais, c'est bien et tout. Mais à un moment donné, vas-y, essaye d'aller chercher quelque chose, quoi. Mais bon, ça, c'est ma manière de voir les choses. Et je suis où, moi? À la maison, j'ai pas de club, tu vois.
Ouais.
Donc il faut à un moment donné, mais je dis pas que faut pas s'adapter à l'entraîneur, on doit s'adapter tout le temps à tout le temps. Mais je vais pas changer qui je suis profondément pour trouver un club.
Bien sûr,
je veux dire, moi quand je me présente à un club, je fais toujours le même truc, j'ai une présentation de ma philosophie, etc. Et je leur dis voilà, moi je pense que le plus important avant de parler football, c'est parler des valeurs. Qu'est-ce qu'on créer un environnement d'excellence, j'appelle ça, où chacun essaie d'être la meilleure version de lui-même. Quand je parle de valeur, je parle de respect, je parle de leadership, je parle d'abnégation, je parle de résilience, tout ça, ça c'est ce en quoi je crois. Et je dis ça au président que j'ai en face de moi avant d'avoir un club. Si président, on n'est pas d'accord avec ça dès maintenant, on serre la main, bonne chance à vous, bonne chance à moi, et voilà, on en reste là. Mais si on est d'accord là-dessus, alors on peut aborder la partie football. Voilà, le football, je le vois comme ça, comme ça, comme ça, ça sont mes idées, comme ça, voilà comment je travaille, etc. Mais d'abord la base. Des valeurs, l'institution est au-dessus de tout, ça c'est la valeur principale. Et quand tu as une institution qui est forte, les joueurs que tu vas signer, ils savent où ils mettent les pieds. Mmh. Et t'auras pas de, tu risqueras moins de rater des signatures du joueur. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent? Tu as des joueurs qui signent quelque part, et quelques mois après, au mercato d'hiver, ils doivent partir, ou quoi, ou ils s'adaptent pas, etc. C'est pas une question de ça. C'est quand un joueur signe au Real Madrid, ou au Bayern de Munich, il sait qu'il arrive dans un endroit où l'institution est plus haute, plus forte que tout. Il sait où il met les pieds, pareil pour Barcelone. En Belgique, trop souvent, on signe des joueurs parce qu'il faut les signer ou parce que tel et tel est tel agent. Et le joueur, il est là. En fait, il colle pas du tout à la philosophie. Et le joueur arrive. Ou alors, voilà, un club veut absolument un joueur. Il lui fait comprendre, on te veut absolument. Il signe et le joueur, il arrive et c'est le king. Merci. Non. Si je devais être président d'un club, on te veut absolument. Mais là où tu mets les pieds, voilà les règles. Nous, on est comme ça, comme ça, comme ça. Nous, on se bat pour ça, ça et ça. Telle et telle sont nos valeurs. T'es d'accord avec ça? Tu signes, on sera super heureux, on va faire notre mieux pour toi. Si t'es pas d'accord avec ça, malgré qu'on te veuille, s'il te plaît, ne signe pas. Signe ailleurs. Je pense qu'il faut...
Mais c'est important.
Je parle avec le cœur, là.
Ouais, bien sûr.
Je parle pas au niveau business, je parle au niveau cœur, au niveau comment tu crées une institution forte. Je pense que c'est comme ça.
C'est important.
C'est comme ça qu'on gagne des titres, ouais, Yannick. C'est en créant des institutions.
Aussi, je pense aussi, et je pense, j'ai souvent dit ça, sans amour, tu peux pas gagner. Mmh. Sans tout le monde qui va dans la même direction.
C'est comme ça que tu as un collectif soudé. C'est,
clairement. Et les quelques titres que j'ai gagnés, moi, c'est quand on était tous comme ça. Au Standard, par exemple, on gagne la coupe. Les joueurs savaient tous qu'il y avait des mecs au-dessus de moi qui pouvaient pas me blairer, qui me voulaient pas là. Et les joueurs et moi, on a créé un truc. On était comme
et
ça.
En plus, t'as quand même un gardien qui s'appelait Victor Valdés, qui aussi avait un nom et qui pouvait aussi te dire, ben voilà, moi je suis au-dessus de l'institution et non, et qui au final gagne quand même la Coupe de
l'Europe. Il arrivait avec une humilité incroyable.
Ça se voit, exactement.
Ah, ouais. Et c'est un autre truc aussi, à Saint-Tron, où on a gagné le titre. Donc, j'ai première année à Saint-Tron, dans le dernier match des playoffs, on mène à la mi-temps contre Moucron et puis on perd le match et donc on monte pas cette année-là. L'année d'après, on est champion. Je me souviens, à Saint-Tron, il y a eu un cas. Le capitaine, ma première année, le capitaine a été blessé pendant longtemps. Il revient, je le fais jouer, je le sors après 60 minutes. Et quelques jours après, il y a des bruits comme quoi le capitaine a été trouvé, le CEO qui était Philippe Bormans à l'époque, qui est maintenant à l'Union.
On va pas parler de Philippe Bormans ce soir.
Hein, pardon.
Non. Vas-y, continue, mais Philippe Bormans, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a à boire et à manger avec Philippe Bormans.
Et donc voilà, il va trouver Philippe Bormans, il lui dit voilà, c'est l'entraîneur ou c'est moi. Je sais pas d'où ça sortait. Et Philippe Bormans, c'est le club, on dit non, ben, si tu veux dégager, tu dégages, nous on garde l'entraîneur. Et ça, en fait, ça a mis, l'institution a montré qu'elle était forte. Et ça m'a protégé à moi aussi. Et à partir de ce moment-là, on n'a fait que grimper. On a été champion avec le record des points en D2 l'année d'après, quoi. Donc, quand l'institution est forte, l'entraîneur est protégé et voilà, on va tous dans la même direction. Quand t'es comme ça, c'est déjà pas facile de gagner. Mais quand t'es comme ça, c'est juste impossible de gagner. Et donc, il faudrait vraiment que tout le monde soit comme ça pour aller dans la même direction.
Et même, tu le vois ici en championnat de Belgique, hein, les clubs où justement l'institution n'est pas forte actuellement, c'est les clubs où ça tourne pas.
Oui, c'est ça exactement. Et il y a quelque chose qui, dans ton discours, là, me touche, c'est le fait de dire, moi, je vais rester moi-même, je vais pas changer, en fait, pour quelqu'un d'autre. On a une question d'un des abonnés, Jordan RSCL7, qui nous pose la question. Après plusieurs expériences à l'étranger, ratées ou réussies, pense-t-il encore être sur les tablettes des équipes de division 1 belge qui cherchent un entraîneur? En Belgique, on adore faire revenir de l'ancien pour faire du nouveau. Pense-t-il être dans ce cercle? Moi, je vais ajouter juste une question. Est-ce qu'avec cette mentalité-là, est-ce que quelque part, tu ne fais pas un peu peur à ces équipes qui, justement, ont un petit peu, je dirais, des difficultés à faire confiance à des gens qui restent eux-mêmes et qui ne se camouflent pas dans un personnage pour rentrer dans l'image du club?
Mais quelque part, si quelqu'un veut me connaître, on parle. Et je pense qu'en une heure, en parlant football, on peut me connaître. Et même ces équipes qui ont même si je fais peur, ou certains mots peuvent faire peur, mais parle avec moi pendant une heure, connais-moi un petit peu, et tu verras à quel point, si je signe dans ton club, je vais donner ma vie pour ton club. Ce club sera numéro un sur ma liste de choses à faire et sur ma liste d'intérêts. Ça, c'est comme ça que je suis. Quand je fais un truc, c'est 100%. Et j'ai aucun problème, moi j'ai déjà fait souvent, de parler avec des présidents ou des directeurs sportifs, expliquer qui je suis, mais je vais pas aller leur mentir pour signer, et puis une fois que j'ai signé, après je suis pas moi-même ou quoi. Non. On colle ou on colle pas. Une erreur que j'ai commise dans ma carrière, c'était signer à Beveren, par exemple.
Okay.
À Beveren, j'ai signé là, donc c'était fini à Malines. J'étais 8 mois sans club, et puis je signe à Beveren. Quand j'étais parlé avec les gens de Beveren, j'ai même pas dû parler de foot. J'ai même pas dû parler de qui j'étais ou de ma philosophie, de ma mentalité. Ils m'ont fait signer parce que j'avais été entraîneur du Standard et de Malines, on a fait une bonne saison, donc automatiquement, j'étais bon pour Beveren, et donc j'ai signé là. Mais moi, j'ai signé sans savoir qui était le club, et le club a signé sans savoir qui j'étais. On collait pas l'un avec l'autre. Moi, j'avais un certain degré d'exigence qui collait pas avec le club. J'avais une certaine volonté de réaliser certaines choses qui ne collaient pas avec le club. Et au final, au bout de 5 mois, ça s'est terminé. Donc, je vais pas aller mentir à un directeur sportif ou un président juste pour le plaisir de signer. Je signerai là où je sens que j'ai envie d'aller. Par exemple, je pouvais aller au Lyre il y a quelques semaines parce que le contact passait bien, parce que je sentais qu'il y avait un truc. Mais au final, je me dis, c'est pas le bon moment pour moi, donc je l'ai pas fait. J'aurais pu signer pour dire, ah, j'ai un club, ah ouais, ben Ferreira, ah, c'est bon, il a de nouveau un club, il travaille. Mais le but, c'est pas juste de travailler, le but, c'est d'aller là où je pourrais m'exprimer et être la meilleure version de moi-même.
T'as changé dans ta façon de voir le football? Est-ce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que même si on regarde dans une analyse plus tactique, plus technique, est-ce qu'aujourd'hui, le Yannick qui avant jouait avec une défense à 4 préfère regarder le Simone Inzaghi de l'Inter jouer avec une défense à 3? Je dis ça parce que je suis un grand fan de l'Inter et qu'on est évidemment en train de broyer toute l'Italie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la philosophie de jeu en apprenant, en étant entraîneur, en restant soi-même, chez toi, a évolué? Est-ce que tu es devenu un autre entraîneur aussi d'un point de vue technique?
Ça a évolué parce que quand j'ai commencé, j'avais 31 ans et zéro expérience avec des pros. Enfin oui, expérience, 2 ans d'expérience dans un staff pro, mais pas comme entraîneur principal. Donc, j'étais un entraîneur très réactif au début. D'un genre, on calquait tout ce qu'on faisait par rapport à l'adversaire, on était assez attentiste et puis on essayait de repartir ou d'aller jouer sur leur faiblesse. Maintenant, quelques années plus tard, je suis devenu un petit peu plus bielsiste, si on peut appeler ça comme ça.
Oui.
Et j'aime créer des choses. Je veux dire, quel que soit l'adversaire contre qui on joue, et les gens ne le savent pas, mais on l'a démontré plein de fois avec mon premier club saoudien. On allait jouer contre des grosses équipes qui étaient en Ligue des Champions asiatiques, etc. Et on allait presser haut, on allait les chercher dans leurs 16 mètres et tout. Voilà. J'ai envie qu'on soit plus actif. C'est-à-dire, quand on n'a pas le ballon, on va les pousser à l'erreur, on va les presser, on va essayer de les agresser, de les harceler. Et quand on a, nous, le ballon, comment est-ce qu'on est actif? Ben, on essaie de créer des choses. On va pas faire 10 000 passes latérales de centrale à centrale. On va essayer d'aller casser des lignes. On va essayer d'aller faire des courses dans le dos de la défense. Donc voilà, je prône un football plus actif que réactif. J'étais plus réactif à l'époque, je suis devenu plus actif maintenant.
L'Arabie Saoudite, c'est quand même un football différent, une manière de penser le football très différente. Et surtout, voilà, tu l'as dit, tu as vécu plusieurs moments. D'abord, très beau, hein, le titre en 2011-2012 avec Al-Shabaab en tant qu'entraîneur assistant, c'était avec Michel Prodhomme, c'est ça, ouais. qui était l'entraîneur principal. Et puis, effectivement, bon, voilà, Al-Fateh, et puis Riyad, forcément, où tu es resté 6 matchs, hein, c'est ça,
ouais, ouais.
Tu es resté que 6 matchs. Comment est-ce que tu perçois qu'il a vécu de l'intérieur, justement la Saudi Pro League par rapport aux gens qui le regardent de l'extérieur? On se dit oui, par exemple les chiffres sur l'adhésion des téléspectateurs sont très très bas, c'est affligeant, voilà, c'est très compliqué, etc. En Europe, on sait pas vraiment on s'est pas vraiment attaché en fait à cette ligue.
Ouais.
Toi qui l'as vécu, c'est quoi le football en Arabie Saoudite?
En fait, il faut savoir, ma première expérience là-bas, donc c'était comme analyse vidéo dans le staff de Michel Prodhomme en 2011-2012, on avait droit à 3 étrangers par équipe. Quand je suis retourné comme entraîneur principal en 2019 à Al-Fateh, il y avait 7 étrangers par équipe. Donc ça avait déjà vachement vachement augmenté. Donc le niveau général avait déjà vachement augmenté. Cette saison-ci, c'était 8. L'année prochaine, ce sera 10, mais 8 seulement sur la feuille de match, mais tu pourras avoir 10 étrangers dans ton noyau. Donc le niveau augmente chaque année. C'est un football, si on doit le comparer à ce qu'on connaît, plus lent que le football belge. Donc bon techniquement, mais plus lent, parce que aussi c'est normal. Il fait beaucoup beaucoup plus chaud là-bas.
Oui,
c'est-à-dire en été, quand le championnat commence, on est mi-août, il peut faire encore, quand tu joues les matchs ce soir, il peut faire 42, 43 degrés. Donc c'est il fait beaucoup plus chaud. Dans certaines villes, il fait très humide dans les villes côtières.
Ouais.
Au centre où j'étais à Riyad, c'est comme si tu joues avec un sèche-cheveux sur la figure. Il y a du vent, donc il fait pas humide,
ouais.
Mais c'est voilà, joue avec un sèche-cheveux sur la figure.
Un ballon aussi, voilà. Certainement, il vole sur les duels aériens, ça doit pas être évident.
Voilà, il y a pas beaucoup de duels aériens, ça joue, mais non, le football saoudien est en train d'évoluer. Maintenant, il y a eu depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, il y a un peu plus d'un an maintenant. Ça a pris une expansion énorme. En été encore plus avec les signatures de Benzema, Kanté, Fabinho, Firmino, pour ne citer que. Ça commence vraiment à monter et on s'attendait, je pense, voilà, directement, toute l'Europe va s'intéresser à ça parce que les plus grands joueurs y sont. Mais comme tout projet, il faut du temps. Quand un entraîneur arrive quelque part, il a besoin de temps. Quand une ligue est en train de changer, il faut du temps pour que ça prenne. Eux, je pense qu'ils veulent être au top pour 2034.
Ouais, c'est ça.
Et donc c'est que on est qu'à un an de leur nouveau projet, hein. 6 mois même, 7 mois on va dire avec le si on prend à partir de l'été.
Mm-hmm.
Donc il est normal que ça prenne pas encore, mais ça je pense que ça va prendre parce que il y a quand même du spectacle. Après il y a encore beaucoup de choses qui doivent changer, hein. Je veux dire au niveau de l'arbitrage, il y a pas mal de choses qui doivent changer là-bas parce qu'il y a beaucoup d'arbitres étrangers,
mm-hmm.
mais il y a aussi beaucoup de locaux qui sont pas encore habitués à ce niveau-là. Donc les joueurs locaux doivent être aussi formés différemment, je pense, parce que les joueurs locaux, il y en a beaucoup qui ont des qualités, mais le travail qu'on fait chez les jeunes là-bas n'est pas assez développé que pour pouvoir avoir des joueurs top niveau.
On l'a vu avec la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, d'ailleurs, grand premier match de la Coupe du Monde, où ils étaient effectivement assez intéressants.
Ouais, c'est ça, ça. Et je pense qu'il y a quelques joueurs saoudiens, pas beaucoup, qui peuvent évoluer en Europe,
mm-hmm.
qui ont les qualités pour évoluer en Europe, mais il pourrait y en avoir plus si la formation était différente. Maintenant, le fait qu'il y ait tant d'étrangers qui arrivent et que le niveau augmente, est-ce que ça va aussi faire que le pays va développer plus d'académies ou mettre plus d'argent dans le football des jeunes? Et est-ce que ça va faire augmenter le niveau des joueurs? Je l'espère, parce que les locaux, il y a de moins en moins locaux qui jouent, vu qu'il y a de plus en plus d'étrangers. Mais il faudrait que les locaux, s'ils veulent avoir une équipe nationale solide, il faudrait que les locaux travaillent aussi sur leurs jeunes. Parce que ceux qui vont jouer à la Coupe du Monde 2034, ouais. c'est les gamins qui ont 12-15 ans aujourd'hui. Hein.
Ouais, c'est
donc
ça.
Il faut maintenant mettre vraiment beaucoup d'impact là-dessus. Pour pouvoir essayer de faire monter ce
et monde. On le voit aussi d'un point de vue géopolitique, de plus en plus de tournois internationaux liés au sport qui sont en Arabie Saoudite.
Ouais, ouais,
on
ouais.
peut parler notamment du combat de boxe qui a lieu entre Francis Ngannou et Anthony Joshua.
Ouais,
on
ouais.
peut parler notamment de la Formule 1 dernièrement qui s'est joué, c'était à Jeddah, je pense,
ouais, Jeddah,
le Grand Prix. Voilà, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train géopolitiquement de se centrer et surtout... Et là, c'est dingue parce que je vais revenir au foot. Je sens un degré d'exigence des dirigeants et surtout une capacité totale à se passer des stars quand il y a un problème. On l'a vu avec Benzema. On l'a vu maintenant le problème avec Al Nassr lié à Cristiano Ronaldo où ils estiment qu'à un moment donné, l'investissement ne vaut pas les résultats. Je veux dire, ça ne se passerait peut-être pas dans d'autres pays des Émirats Arabes Unis ou du Golfe.
Ouais.
L'Arabie Saoudite, il y a justement encore ce, tu parlais tout à l'heure d'exigence concernant Will Steele. Il y a à un moment donné cette volonté d'être droit dans ses bottes.
Déjà, il faut respecter les valeurs et la culture du pays. C'est très important. Les Saoudiens sont très patriotiques. Donc, il est très très important pour tout étranger qui arrive. Si tu arrives là-bas, genre, je vais coloniser le pays ou le foot saoudien, t'es mort. Mm-hmm. Ce serait ridicule, ce serait scandaleux de faire ça. Si t'arrives en disant voilà, je vais essayer d'apporter mes qualités, mes capacités, mais respecter la culture et l'identité de ce pays. Ça peut très bien se passer.
Ouais, effectivement. On va parler quand même un petit peu de notre championnat. Et je voulais justement avoir ton avis concernant la contre-prestation, encore une fois, on peut le dire, du Sporting Charleroi face au Cercle de Bruges. On sent Felice Matsu, qui en plus, le jour du tournage de l'émission, fête son 58e anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui, Felice Matsu. A clairement fait comprendre quelque part un peu l'énergie dans laquelle il se situait avec le Sporting en disant « J'ai pris 10 ans en un an avec cette saison. C'est
aussi,
dur, c'est harassant. » Les joueurs aussi, je pense que ça, les vacances vont faire du bien à tout le monde. Et une fois que le Sporting sera officiellement sauvé, ça fera du bien. Ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation similaire? Tu parlais du Standard tout à l'heure avec les luttes d'ego qu'il peut y avoir dans la direction.
Ce qu'il y a, quand tu fais ce métier à fond, tu n'as pas une minute de répit. Parce que si tu veux, tu as toujours du travail en fait. Mm-hmm. T'as toujours un match à analyser que tu viens de jouer ou un match à préparer que tu vas jouer. Donc quand tu veux faire ce métier à fond, à un moment donné tu décides j'arrête parce que faut que j'aille dormir ou j'arrête parce que faut que j'aille manger parce que c'est des besoins vitaux. Mais c'est extrêmement prenant quand tu veux faire ce métier à fond. Tu peux le faire aussi en glandant, hein, si t'as le noyau qu'il faut. Tu peux des fois un petit peu glander, reculer et tu vas quand même gagner le match. C'est qui est un peu frustrant aussi, c'est que tu peux tout donner et perdre. Tu peux faire un petit peu moins et gagner. Sur la durée, je pense que ça dure. Enfin, ça dure pas sur la longueur, mais je peux comprendre la phrase qu'il a dit, c'est que se battre pour le titre, il y a un certain stress. Se battre contre la relégation, il y a aussi un certain stress. Mais le stress quand tu joues là, il te bouffe plus, il te ronge plus que le stress là-bas.
Ouais, c'est ça. Et donc c'est énergétiquement, c'est sur le terrain, tu vois, ça vampirise complètement ton énergie au quotidien, quoi. C'est ça qui est le plus compliqué.
Ouais, parce qu'il y a plus d'ondes négatives aussi autour. Okay. Il y a plus de gens négatifs à canaliser. Les joueurs sont peut-être un peu plus défaitistes aussi, ou les joueurs apprennent qu'ils ont un but. Enfin, quand tout tourne bien, t'encaisses un but, tu dis, hey, les gars, calme, on va faire notre truc. Quand tout tourne mal et que t'encaisses un but, tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'on doit remonter ici? Alors qu'au final, c'est la même chose. Mais non, c'est, je peux comprendre tout à fait, c'est très compliqué. Personnellement, j'ai eu quelques, avec Charleroi, la première année, on n'a pas été dans cette situation-là, parce qu'on était quand même sauvés après 25 journées déjà. Donc c'était un petit peu différent. Malines, l'année, donc j'avais commencé à Malines, on avait bien fait. La saison d'après, on était mal, mais j'ai été viré après 11 matchs, donc j'ai pas vraiment vécu tout le truc. Beveron, j'ai été viré à la moitié du championnat, donc j'ai pas vécu tout le truc non plus. Mais une saison complète, c'est prenant. J'ai eu un petit peu ce cas à AlphaTech quand je suis arrivé. L'équipe avait un point sur 18. Après 6 journées, ils ont viré le coach aussi. Et je suis arrivé, moi, en octobre 2019 là-bas. Et on s'est sauvé à l'avant-dernière journée. Mais pendant tout ce temps-là, il y a eu le Covid aussi entre-temps, puis le championnat a repris après. C'est pesant. À la fin, les vacances, t'en as vraiment besoin.
Ouais.
Ça te bouffe de l'intérieur, c'est un truc de dingue. Et on a beau dire, hein, ouais, mais les entraîneurs, vous êtes bien payés. Ouais, mais quand on vous vire, vous êtes bien payés, etc. Quand on fait ce métier à fond, on est peut-être les plus touchés. Les supporters sont touchés, le président est touché, les joueurs sont touchés. Mais toi, tu sais que tu vas être celui pointé du doigt. Donc, t'es peut-être plus touché que n'importe qui. T'es celui pour lequel ça compte peut-être le plus.
Ouais.
Et donc, c'est automatiquement pesant. Ouais.
Ça se compte en cheveux gris. On a un peu l'impression.
Regarde des photos de quand j'ai commencé à Charleroi en 2012.
Bah ouais.
Regarde maintenant.
Bah oui, c'est pour ça que je le dis.
Il y a quelques joueurs qui sont, il faut mettre des noms de joueurs là et des noms de joueurs là.
Mais c'est ça. Et pour revenir à Charleroi, bon, nous, techniquement, on a toujours, et je pense que l'analyse, elle est souvent la même, malheureusement, chaque semaine,
ouais,
mis en avant et pointé en exergue le problème offensif. Oui. Mais quand tu le vois, est-ce que techniquement, ou même d'un point de vue jeu, tu as des nuances à apporter, ou alors peut-être une analyse, une spécificité technique quand tu vois ce Charleroi-là, mis à part le fait de dire qu'à un moment donné, personne n'a envie de marquer un but, et il y a vraiment une question de volonté, ou d'impression que c'est dur, quoi. J'ai l'impression que Felice Matsu tire son groupe, c'est pour ça aussi qu'il dit qu'il a pris 10 ans en un an. On a l'impression qu'il est en train de tracter toute l'équipe derrière son dos et que, allez, ça ne veut pas marquer, quoi. Il y a quelque chose de psychologique plus que footballistique.
Mais pas que psychologique ou quoi, mais quand tu fais, je pense, Felice Matsu, aujourd'hui, il est meilleur que les Felice Matsu qui a qualifié Charleroi il y a 5-6 ans pour les playoffs.
Ouais.
Parce que de jour en jour, t'es meilleur en meilleur. Tu donnes plus d'entraînement, fais plus de matchs, tu prends l'expérience, t'es meilleur. Il est pas moins bon qu'il y a 5-6 ans.
Ouais.
Mais il y a 5-6 ans, une année, t'as Osimhen. une année t'as atteint un autre, voilà, qui claque des buts, ou David Paulet qui à l'époque claquait des buts, etc. Quand t'as pas ce mec qui te claque des buts, pardon?
Perbet aussi.
Jérémy Perbet. Quand t'as pas ces mecs-là qui claquent des buts, c'est pas la même chose. Donc ça quelque part, sa tête, ça te soulage d'avoir un mec, tu mets un ballon devant ou profondeur, il va faire peur à la défense adverse, donc automatiquement tu vas, ton équipe va pouvoir remonter parce que l'équipe adverse va reculer. Quand t'as pas ça, t'es souvent t'es dans ton camp et ça pèse, et c'est comme si tu prenais comme si tu subissais tout le temps, et donc c'est pesant, c'est lourd, et comme entraîneur t'essaies de tirer ça, de tirer, et tu peux pas tirer tout le monde, quoi. Je veux dire, il faut que ça vienne aussi de l'intérieur. On a besoin de leaders, on a besoin de relais sur le terrain. Il y a de moins en moins de leaders, hein.
Ouais, il y a de moins en moins de relais aussi pour
au fil des années.
Matsu, on lui a appris Frédéric Renaud, on lui a appris son analyste vidéo. Ça aussi, en tant qu'entraîneur, ça doit être dur d'avoir des gens qui sont des assistants, ou des personnes en tout cas qui vont t'apporter cette énergie pour t'aider dans tes choix, etc. Et à chaque fois, on t'enlève un élément, quoi. Donc t'es là, c'est comme si on te pompait tout, quoi, toute l'énergie.
Mais ouais, je pense, il faut vraiment que tout le monde aille dans la même direction. Et si l'entraîneur veut faire ceci ou cela, et qui pense que c'est bon pour le club, mais que le club dit non, nous on va faire plutôt comme ça, ben t'as les deux entités principales qui vont comme ça, et ça peut pas donner des bonnes choses, quoi.
Ouais. On va parler un peu du standard, monsieur. C'est les moments forts de la semaine, tout de suite. Oula. C'est le moment avec
le Yannick, il est assez puissant.
Rigoler pour déconner.
Oui, forcément, le standard logiquement battu par plus fort. Est-ce qu'ils peuvent regretter d'avoir manqué de culot dans le match face au KRC Genk, ou alors est-ce qu'ils pouvaient tout simplement espérer un résultat différent s'ils avaient entamé quelque part la rencontre comme ils l'ont terminé, Quentin?
Non, je pense pas, parce que c'est des situations complètement différentes déjà de base. T'as une équipe de Genk qui se bat pour les Champions Playoffs, alors que t'es une équipe du standard qui va à Genk, sachant qu'elle a 99% de chances d'être sauvée, donc sa saison maintenant est tranquille. T'as une équipe de Genk qui a pris plus du double de points à domicile que le standard n'en a pris à l'extérieur, donc je trouve que c'est logique pour moi que Genk l'a emporté. Et au standard maintenant, de toute façon, la saison, ils sont sauvés, la saison elle est finie, il n'y a rien à faire. Le seul truc que tu dois faire maintenant, c'est préparer la saison prochaine, et tu peux déjà la préparer maintenant. Donc là, clairement, on savait qu'ils allaient perdre et ils allaient pas faire quelque chose à Genk, surtout avec l'équipe comment elle tourne maintenant, les joueurs qu'il y a maintenant, l'ambiance qu'il y a toujours actuelle au club. C'est pas, il fallait pas s'attendre à quelque chose, je trouve.
Quel changement est pour toi vraiment extrêmement étonnant ou intéressant à signaler, le premier truc qui te saute aux yeux quand tu vois ton standard, celui de 2015-2016, et ce standard-là? C'est quoi qui te dit, putain, mais ça a vraiment changé, c'est un autre monde, quoi?
Mais il faut savoir, moi j'avais un standard, déjà un noyau, qualitativement moins élevé que celui de l'année d'avant, parce que je pense que Batshuayi était parti, Mpoku était parti, Carcella était parti, moi j'ai pas eu tout cela. Donc le noyau que moi j'avais était déjà moins doué que celui d'avant. Mais on a pu créer un truc ensemble. Ici, le noyau de maintenant, je pense qu'il est encore qualitativement moins fort que le noyau que j'avais moi.
Qualité individuelle, alors?
Je pense, ça joue beaucoup, ça joue beaucoup. Tu vois le standard aujourd'hui, c'est rare que tu dises, putain, celui-là, très 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 fort. Ouais, il y a des bons joueurs. Mais tu dis pas, waouh, lui, il peut jouer facile à l'étranger, quoi. Tu vois? T'as plus ça maintenant. Et au final, on peut dire ce qu'on veut. Le football appartient aux joueurs. T'as pas la qualité qu'il faut dans le noyau. Alors, il faut la mentalité qui va avec. Mais le problème, on en vient. Le standard, si mes souvenirs sont bons, avant de la gagne, ils ont gagné la semaine d'avant.
Ouais.
Quand le standard gagne un match, le week-end d'après, c'est cool.
C'est toujours comme ça.
Mais écoute, je l'ai vécu, et tu deviens dingue comme entraîneur quand tu vis un truc comme ça. Hein, parce que toi, tu veux y aller tout le temps. Et des fois, on faisait un match de dingue. Moi, j'apprends en déplacement, je sais pas où, à Westerlo, on perd. Puis les gars, tu vois. Et souvent, on perd parce que les mecs ont pas la même niaque qu'ils avaient le match d'avant à domicile devant 25 000 spectateurs, quoi. Et donc, tu te dis un peu, Et ça, c'est un problème qui a toujours existé au standard. C'est dans les gènes, malheureusement, du club.
Pourtant, on peut pas dire
donc
que c'est
le relâchement est inscrit. Je vais te donner la parole après, Quentin. Donc, c'est très important ce que tu dis. Donc, tu dis que le relâchement est inscrit quelque part dans l'identité du standard depuis les années. C'est vraiment un problème qui est latent, selon toi.
Regarde les stats, et ça confirmera ce que je dis. Et je te dis, regarde les stats sans avoir moi vu les stats. Hein. Mais le ressenti que j'avais moi comme entraîneur, c'était quand on gagnait un match, voire peut-être deux, il y avait toujours un relâchement après, parce que c'est la mentalité. C'est bon, cool, c'est bon, tu vois.
Ouais.
Mais tu gagnes pas un titre. La coupe, c'est différent parce que c'est 7 matchs. Et tu tombes d'abord contre une des deux, etc. Il faut avoir la chance au tirage. Bref, un titre, être champion. Tu gagnes pas un titre de champion si t'as pas ce truc de tu vas aller écraser tout le monde. 2007, 2008, 2008, 2009, quand ils ont été champions, sous Michel et sous Bologna, il y avait ça. À part qu'il y avait des qualités de dingue. Mais
et il y avait des salopards aussi.
Parfois,
ça manque un peu. Les salopards pour prendre Bologna, évidemment. Moi,
il en faut.
Entre parenthèses, bien sûr.
Il en faut.
Mais c'est ça, c'est important. Quentin, qu'est-ce que tu voulais dire? Excuse-moi, je t'ai interrompu.
Non, non, ouais, mais c'est vraiment ça. Mais je pense que ce n'est pas forcément avec les supporters, parce que quand on regarde encore ici au match à Genk, on n'entendait qu'une partie des supporters, c'était les supporters standards. Ils étaient à Genk, on n'entendait pas, à part faire des chants contre les Wallons, mais ça, on a l'habitude à Genk. Mais on n'entendait que les supporters du standard. Donc, ils sont quand même présents, ils soutiennent leur équipe et tout.
Clairement.
Mais moi, ce que je trouve le problème, surtout cette saison, c'est ce que Yannick a dit en début d'émission, c'est quoi? C'est le respect de l'institution. Et il y a des joueurs, je suis désolé, au standard, qui pour moi se pensent au-dessus, supérieurs, peut-être parce que ça vient de 777, ça vient d'un club partenaire ou autre, mais ils se pensent sûrement supérieurs à l'institution du standard. Et je suis désolé, surtout quand tu as un club comme le standard, tu dois respecter l'institution de base, et puis après, tu dois créer cet effectif, ce collectif. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment ce collectif dans cette équipe du standard.
Mais le truc, c'est qu'il faut respecter l'institution. Souvent, pourquoi est-ce que des joueurs ne respectent pas l'institution? C'est la faute de l'institution.
Si l'institution... Pardon? Parce qu'ils ne la connaissent pas aussi.
Ouais, ou l'institution n'impose pas ce respect.
Voilà,
non plus.
L'institution, je veux dire, ok, tout le monde connaît le Bayern, tout le monde connaît le Real. Tout le monde ne connaît pas le standard. Mais si moi, je suis président du standard, t'es un joueur, je te veux, tu vas signer chez moi. Je t'explique qui on est. Et si t'es d'accord avec qui on est, alors tu peux signer chez nous. Et alors, il n'y aura pas d'erreur de casting.
Mais là, il y a un problème, c'est que 777 ne sait pas qui est le standard. Ben,
777 ne sait même pas c'est quoi le football, voilà, je suis très honnête. Je veux dire, aller plus loin, parce qu'effectivement, ils sont là uniquement pour faire de la finance. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Ça. L'arrivée des capitaux financiers pour survivre ou faire survivre certains clubs belges ont quelque part, je dirais, illuminé tout le monde. Ça a mis un espèce de voile sur d'où vient l'argent, qui sont ces gens qui ont l'argent. Et quelque part, on laisse gérer des gens qui n'ont aucune connaissance de ce qu'est vraiment le football, quoi, tu vois. C'est ça le vrai problème aujourd'hui du football, c'est qu'il est en train de s'américaniser, mais quelque part, les gens qui veulent américaniser le football, et c'est bien souvent le cas avec les Américains, ils ont cette logique propagandiste qui fait que quand ils viennent avec l'état d'esprit du dominateur qui vient coloniser avec ses idées. Sauf qu'à un moment donné, leurs idées sont pas toujours bonnes. Et c'est ça le souci. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où... qu'est-ce que va devenir le standard, Yannick?
Ouais, j'avais février 2022, j'ai eu un Zoom, un call avec le président de Stand à l'époque, un Américain aussi.
Paul Conway.
Et je me suis senti, après cette réunion, je me suis senti, okay. En fait, le mec, il m'a dénigré, je me suis senti vraiment un mauvais entraîneur après avoir parlé avec ce mec. Ouais, mais au niveau des stats, nous, on fait comme ça, et nous, on fait ça au Stand, et on fait comme ça, et ça nous a déjà rapporté autant. Et puis, quand tu vois 2 ans après, Ostend est descendu, Nancy est descendu, Intel est descendu, tu dis, en fait, tu m'as presque dénigré quand on a parlé, mais t'as fait quoi, toi? Tu as apporté quoi à ta club? T'as peut-être fait gagner quelques millions au club, mais les supporters te détestent tous parce que t'as fait descendre leur club. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, tu peux, c'est pas une question d'américain, ou c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de nationalité, mais tu viens quelque part, respecte l'institution dans laquelle tu mets les pieds, et tu peux l'augmenter, tu peux l'améliorer, améliore-la, mets-y tes moyens, ok, super, mais, essaye pas de... respecte notre sport, respecte notre football. Le football, ça reste quelque chose de beau et que les gens aiment, c'est un sport populaire qui est accessible à tout le monde. Respecte ça, donne quelque chose aux gens. Mais viens, enfin, ok, après, encore une fois, c'est du business, je suis pas un businessman, je serai jamais milliardaire. J'ai pas l'esprit.
Mais c'est beau.
Du business, tu vois.
Moi, mon prix parti, c'est de dire que c'est beau ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi, dans ton football et dans ta façon de parler et d'être, le romantisme qui est quelque part important. Mmh. Parce que si on perd ça, on perd l'essence, Thomas. On perd ce grain de ce pourquoi, à un moment donné, tu vas payer 10 euros ou peut-être 20 ou peut-être 30 dans les stades de Jupiler Pro League pour aller voir ton match, prendre ta chope, manger ta frite. Il y a un moment donné aujourd'hui, un retour qui est hyper important aux bases et qu'on est en train de perdre, clairement.
Mais clairement, le business a vraiment pris le dessus sur le football, on le remarque. Hein, dans le foot, les clubs satellites, les clubs qui pensent que business, et si je peux me permettre de donner un exemple, hors foot, etc. Enfin, si c'est dans le foot, mais je veux dire, niveau tactique, entraîneur, si ça là. Bruges, eux aussi, c'est un club qui pense, qui était très familial, qui l'est plus trop en ce moment, je trouve. Ils pensent vraiment business, vendre à ses supporters, si ça là. Tu vois, c'est vraiment très marketing, très business, et c'est un peu dommage dans le football actuel.
Mais ce qui est fou, je te donnais la parole après, Quentin, c'est que aujourd'hui, Yannick, les gens ne se rendent plus compte que c'est d'abord les résultats sportifs qui amènent les conséquences financières, qui amènent que les joueurs soient vendus plus cher, qui amènent que les titres soient gagnés. Les gens ont oublié que ça part d'abord de ce qui va se passer sur le terrain, de ce qui va être d'abord recruté, d'où ça vient et de comment est-ce qu'à un moment donné tu respires le football. Est-ce que tu as du talent pour repérer un joueur? Est-ce que ce talent-là va savoir s'adapter? Est-ce qu'il va être bon sur le terrain? Est-ce qu'il va être efficace? Tout ça, c'est la résultante de ce pourquoi tu fais plus 15 à la fin de l'année dans ton bilan financier. Les gens l'oublient.
Clairement.
C'est fou.
Non, je suis d'accord.
Mais c'est ça qui, moi, à un moment donné, me tue. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les Américains sont arrivés à réussir dans leur sport à eux? C'est parce qu'à un moment donné, ils avaient ce qu'ils appelaient des masterminds, quoi. Des gens qui, des Popovich à l'époque, dans la NBA, etc., qui étaient des gens qui pensaient d'abord à ce qui allait se passer sur le parquet. Mm-hmm. Tu vois? Et j'ai l'impression que quand c'est pour leur sport, c'est possible de se référer à ça. Mais quand c'est le football qui est complètement un sport lointain, ils font même pas l'effort d'essayer, tu sais, d'avoir l'intermédiaire qui va leur dire, hey, les gars, à un moment donné, le football en Belgique, ça se passe comme ça. Il y a ça. Ces gens-là, ils réussissent. Ces gens-là, ils donnent les bons mots à ces gens-là qui leur permettent de faire signer certains joueurs. Voilà qui est qui. Voilà comment ça se passe dans le game. Ils sont arrivés avec leurs gros sabots. Ils voulaient marcher sur tout le monde. Je dis, à un moment donné, ça, c'est un vrai problème, quoi, tu vois. Est-ce que tu t'es parfois retrouvé confronté à ça? On le sait. Et on va aborder, justement, le chapitre du RWDM. Que tu étais dans la liste, ou en tout cas, tu as eu des discussions avec le club du RWDM avant qu'il soit repris par Bruno Irles. Est-ce que tu sens ça aussi?
Tu peux revenir avec le point exact de ta question?
La question, elle est très simple. Sur le RWDM, aujourd'hui, c'est un club dirigé par Eagle. Tu as eu des discussions avec ces gens-là. Est-ce que le discours que je suis en train d'avoir sur les Américains, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti quand tu as eu des discussions et que tu parlais de Paul Conway? Est-ce que c'était pareil, là, maintenant, dans le, je dirais, le relatif passé, quoi?
Mais avec eux, j'ai pas eu de discussion réelle. Quelqu'un du club m'a contacté en me disant, voilà, on a une liste de plusieurs candidats. Tu es dans cette liste. Prépare-toi au cas où on en viendrait à toi. On n'en est pas venu à moi parce que j'étais pas apparemment le premier sur la liste et donc ils ont trouvé un accord avec un gars qui était au-dessus de moi sur la liste, Bruno Hirl en question. Donc j'ai pas eu de relation avec les dirigeants ou avec Eagle, non.
Et si le RWDM aujourd'hui est aussi mal, et on va pouvoir l'aborder, peut-être clairement un des clubs candidats clairement à la descente en relegation playdown, est-ce que c'est aussi parce qu'ils ont négligé ce facteur-là dont on parle?
J'ai vu quelques matchs d'eux ces dernières semaines vu que je les ai un peu suivis, mais avant pas, donc je sais pas où ça en est, mais de ce que moi j'ai vu, en fait, dans l'idée, je me dis au niveau, j'ai vu le mercato, j'ai suivi un peu le mercato, et je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de faire venir des jeunes brésiliens en plein hiver en Belgique alors qu'il reste 10 matchs quand tu dois te sauver?
Et qui connaissent rien au championnat belge.
Et je ne doute pas une seconde de la qualité de ces joueurs. Hein. Ces joueurs sont peut-être des gars qui, dans 5 ans, vont être des top joueurs, peut-être en sélection brésilienne, je ne sais pas. Hein. Mais je veux dire, la question, c'est... et je pense que Roland Duchâtelet a essayé de le faire à l'époque un petit peu, quand il avait plusieurs clubs, à faire tourner un petit peu des joueurs entre différents clubs. Au final, je pense que Roland Duchâtelet n'a pas gagné un seul titre quand il a eu son réseau.
Ouais.
Parce que c'est pas aussi facile que on a besoin d'un arrière gauche là, donc lui qui vient d'un club plus élevé, ah ben lui il va être bon pour ce club là. Tout est une question de profil et d'analyse, et c'est pour ça qu'il y a des scouts. Le travail de scout aujourd'hui il est minimisé, mais le travail des scouts dans un club de foot c'est très important, parce que on regarde pas seulement les qualités du joueur, on pense aussi à ses facultés d'adaptation, on pense à qui va être devant lui, qui va jouer derrière lui, qui va jouer à côté de lui. Et donc c'est des choses auxquelles peut-être on ne pense pas assez quand on fait certains transferts dans des entreprises comme ça, je vais dire le mot entreprise. Mais non, ça peut se comprendre. Le mec, il a plusieurs clubs, il se dit, lui, il vient d'un meilleur club, il peut faire l'affaire là. C'est pas aussi facile que ça.
Est-ce qu'on a des scouts, tu penses, du côté du RWDM, mon cher Thomas?
Franchement, je me pose vraiment la question, parce que quand on regarde la stratégie au niveau des transferts, c'est quand même assez douteux. Parce que, comme il disait, on a recruté plein de Brésiliens. On a recruté aussi des joueurs qui viennent de Crystal Palace, un club qui appartient aussi au groupe Textor, entre guillemets. C'est vraiment des joueurs qui connaissent pas le championnat, des joueurs qui sont pas adaptés. Il y a le temps d'adaptation que tu as besoin aussi quand tu viens dans un championnat. Il y a presque plus de matchs. Quand tu parles de janvier à mars, il y a que 2 mois. Donc, comment tu veux t'adapter? La stratégie des transferts, c'est vraiment, quand tu regardes le mercato aussi bien cet été et le mercato d'hiver, il y a eu au moins, je pense, une trentaine de joueurs qui sont arrivés, il y en a 15 qui sont partis. Enfin, il y a trop de joueurs, en fait.
Ils ont l'air complètement perdus, Quentin.
Vraiment. Non, clairement, ils ont l'air complètement perdus. Pourquoi aussi? Parce que, pour moi, je trouve que quand tu as un petit club comme ça, où tu te bats pour la relégation, il y a un truc très important, c'est le collectif. Et c'est pas en allant recruter un joueur qui joue là au Brésil, un joueur qui joue en Angleterre, un joueur qui joue en France et l'autre aussi qui joue là, que tu vas avoir un collectif. Ils se connaissent pas, ils parlent pas la même langue. Il y a rien qui va faire que justement ils vont être ensemble. Ah punaise, ben lui, il a perdu le ballon, ben c'est pas grave, c'est mon pote, je vais mouiller le terrain, je vais mouiller le maillot, je vais courir à fond pour lui, je vais le sauver et tout. Il y a pas cet aspect collectif parce qu'ils se connaissent pas. Et c'est pas en deux semaines que tu te connais.
Et en plus souvent les mecs viennent en prêt.
Ouais,
ça arrive en janvier en prêt. Tu sais que
oh, on descend, c'est pas grave, après je retourne au Brésil.
Tu sais, mi-mai, t'es plus là. Voilà. Donc tu viens de janvier à mai, tu dis bon, je vais faire 4 mois d'hiver en Belgique, c'est chiant.
Et puis je retourne au Brésil, voilà. Ils sont en D2, ben moi c'est pas mon problème, je retourne à Botafogo.
Vous êtes en train de répondre à la question du jour, messieurs.
Non, mais c'est
je posais clairement la question de savoir s'ils avaient les ressources mentales. Vous êtes en train de me dire non.
Non, mais zéro
plus
là.
Plus pour mais en fait, aussi quand on voit les résultats de depuis décembre, je pense qu'ils sont à quoi?
Plus mauvaise équipe du championnat. 15 matchs, 2 sur 24.
C'est chaud. Et tu sortir de cette spirale là, c'est chaud.
Mais vous avez entendu ce que l'entraîneur a dit après la défaite à Courtrai? Mon équipe est malade. Donc il a vraiment dit ouvertement, mon équipe est malade, mes joueurs sont malades. Mais moi personnellement, c'est un discours que j'aborderais pas. Enfin, je sais pas si à ta place tu l'aurais dit en public. Tu peux pas dire ton équipe elle est malade dans une situation aussi compliquée. Tu dois soutenir tes joueurs, tu dois être là pour eux.
Ouais, ouais.
Dire que ton équipe est malade quand t'es dans une zone de, enfin quand t'es dans la relégation. Enfin, je trouve ça quand même assez bête de sa part. Enfin, pour moi, c'est vraiment c'est mort pour le RVDM. Ils vont finir dernier, c'est
moi,
sûr.
Ouais, c'est ça. Ok.
Ah, oui,
donc
clairement.
Tu penses qu'ils vont terminer dernier.
C'est sûr.
Parce que c'est vrai que ce que Courtrai propose est meilleur. Hein.
Mais depuis le nouvel entraîneur est arrivé à Courtrai, bon, les résultats contre les gros clubs, contre Antwerp, Union, etc., bon, c'est pas bon. Mais dans le jeu et dans ce qu'il propose, c'est plutôt correct. Tu vois qu'il y a vraiment la volonté de vouloir se sauver. Et les transferts ont été bons aussi du côté de Courtrai.
Quand on voit la dynamique aussi du RODM et de Penn, et la dynamique de Courtrai, on se dit que Courtrai a peut-être plus de chance au niveau de.
Ouais. Bah
après, je veux dire, tu commences les.
Penn, de toute façon, qui a gagné contre Saint-Tron. Hein.
Voilà, mais tu commences les play-downs et tu perds le premier match, peut-être que tu as 6 points de retard.
Ouais.
Et toi, tu dis, wow, il reste plus que 5 matchs, on a 6 points de retard, c'est mort. Donc tout va dépendre. Les deux premières journées vont être très importantes dans les play-downs.
Tu gagnes 2 matchs, t'es dans une dynamique complètement différente.
Ouais. Mais la dynamique actuelle nous fait penser que Penn et les RODM vont descendre. Ça, c'est la dynamique actuelle.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous fait penser pour les Champions Playoffs alors, messieurs? Parce que le KV Mechelen, la Gantoise ou le Cercle de Bruges restent une dernière
aussi.
Place.
Ouais, Genk.
Ils ont pris quand même le plus.
Ouais, ils ont 2 points d'avance seulement.
Ouais.
Hein.
Si tout le monde gagne, ils perdent.
Allez, je t'aime bien, on va le mettre dedans. On va mettre le KRC Genk
franchement,
dedans.
Franchement, je suis d'accord avec lui.
Alors du coup, 5e et 6e place, qui va aller chercher justement les Champions Playoffs? Genk, Gant, KV Mechelen ou alors Cercle de Bruges?
Ah, moi je pense Malines. Hein.
La dynamique actuelle, c'est Malines.
Voilà, il y a 3 semaines, tu t'avais posé la même question et je pense qu'on avait tous répondu que c'était trop tard.
Ouais.
Mais je m'attendais pas à ce qu'ils gagnent face au Cercle déjà. Et ce week-end non plus, ils gagnent facilement contre Westerlo, alors que Westerlo, ils sont aussi dans une situation où ils doivent prendre des points. Donc non, c'est très puissant, ils font que gagner. Et là, ils jouent contre Louvain, une équipe qui est très mauvaise, alors que sur le papier, c'est un très bon noyau. Mais non, je pense que Malines ira et je pense que la Gantoise sera dans les playoffs.
Gros travail de Tim Matthijs durant le mercato janvier. Très gros travail. Directeur sportif jeune, passé par le Sporting d'Anderlecht et la Gantoise. Il a complètement cleané, je dirais, le club. Je suis en train de le tanner, là, pour venir dans l'émission parce que je veux lui rendre hommage parce que je trouve que c'est à partir de sa session mercato que il y a une transformation totale.
J'ai vu comme joueur à Malines l'année où on a failli atteindre les playoffs. D'ailleurs, pour la petite histoire, Malines a 45 points maintenant, ils sont 5e.
Ouais.
Nous, on avait, après 29 journées, saison 2016-2017, on avait 48 points après 29 journées.
Mm-hmm.
On était 5e avant la dernière journée où on a été perdre à Gand 3-0 et on a fini 7e. Donc, avec 48 points, on a raté les playoffs.
Mmh.
Ici, s'ils gagnent, ils auront 48 points, ils seront en play-off. Donc tu vois, d'une année à l'autre, tu peux. Ou avec le Standard, on a raté les play-offs à 41 points. Et il y a des équipes qui, avec 41 points, ont déjà été en play-off. Donc tu vois un petit peu d'une année à l'autre. Mais Tim Matthijs, j'ai eu comme joueur, très très bon gars. À un certain moment donné, il commençait à être un petit peu sur la fin, il n'était pas toujours titulaire. Mais quand il montait au jeu, il me montrait que j'avais tort de ne pas le faire commencer. Quoi.
Ouais, ouais.
C'est vraiment une mentalité exemplaire. Très et ça ne m'étonne pas sa réussite en tant maintenant que dirigeant. Ne m'étonne pas, c'est la continuité de ce qu'il était en tant que joueur.
Voilà. Et alors, c'est fou les destins. Maintenant, on parle d'un C4 pour le directeur sportif. C'était celui, Tom Caluet, du KV Mechelen, qui avait été saisir l'opportunité d'aller à Bruges, qui avait fait 6 mois et qui, en mars, avait déjà son C4, qui est arrivé en directeur sportif de Zulte Waregem, qui lui aussi est viré. Et regardez comment, des fois, ça peut s'équilibrer une carrière dans le football, surtout en Belgique, à quoi ça joue?
Ouais, ça se joue
tellement
rien.
Incertain, quoi.
Le fait d'être au bon endroit au bon moment, le fait de faire les bons choix au bon moment, le fait de connaître les bonnes personnes, parce que, quoi qu'on en dise, ce que tu connais, c'est moins important que qui tu connais. Hein. Ouais. Ça reste important. Bah, pour rentrer dans le truc, une fois que tu es rentré, tu dois montrer que tu as les capacités à tous les postes, hein, pas seulement en tant qu'entraîneur. Mais Tom était mon adjoint d'ailleurs à Malines quand j'étais à Malines.
Ah bah voilà, ça m'a donné des bons souvenirs. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on a une petite digression qui nous est offerte par un de nos abonnés et c'est une des questions qu'il voulait te poser. C'est FR Mechelen qui dit justement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au début de la saison alors que l'on avait fait une belle campagne en play-off 2, deuxième derrière Saint-Tron, grâce à son arrivée au cours de la saison 2016-2017.
Ben en effet, je suis arrivé là, j'ai été viré du Standard, Jankovic est venu à ma place. Moi, j'ai pris la place de Jankovic septembre 2016. Mm-hmm. J'arrive à Malines, on fait une super saison, on rate les playoffs de peu. Je re-signe un nouveau contrat, etc. Donc, plus long contrat à Malines. Et puis, la saison d'après, on se dit, on va aller continuer sur la même lancée. On commence la saison, et bon, j'ai été viré après 11 matchs. Mm. Au niveau, le seul truc principal qui a foiré cette année-là, pour moi, il y a un mot, efficacité. On était une des équipes qui frappait le plus au but, qui marquait le moins. On était une des équipes qui, l'adversaire avait besoin de très peu de frappes pour marquer contre nous. Donc tout ce qui a la différence par rapport à l'année d'avant, c'est efficacité dans nos 16 mètres et dans les 16 mètres adverses. C'est tout ce qui a changé. Parce qu'on jouait bien, on proposait, on avait des bons joueurs. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'il y a des années comme ça, où ça tourne un peu moins bien. Comme ça a été moins bien pour l'Olympique Lyonnais en début de saison. Mmh. Et tu as besoin de parfois un petit peu de temps pour que la machine se mette en place, parce qu'il y a un ou deux nouveaux joueurs qui font que... Et ici, je n'ai pas eu ce temps-là, parce que j'ai été viré après 11 journées. Quoi. Mais non, j'ai... Encore une fois, on a pas changé. J'étais pas un plus mauvais entraîneur que l'année d'avant, mais simplement moins d'efficacité. Et quand t'as moins d'efficacité, peut-être qu'à un moment donné, tu vas douter. Et quand tu doutes, le doute, c'est mauvais pour tout, quoi.
Oui. Et pour en revenir sur notre débat, pas de doute pour le moment du côté du KV Mechelen. C'est ce qui vous fait croire, je pense, tous les trois à la qualification en play-off 1, d'autant qu'il y a quand même des clubs qui vont très très mal, qui vont leur faire face pour la dernière journée. Audevor les Louvains à domicile, à mon avis, ce sera très compliqué. Et puis effectivement, il y aura la Gantoise aussi. Pensez que la Gantoise et Malines, ça va être les deux clubs qui vont se qualifier pour les play-off 1.
Non, Genk et Malines.
Genk et Malines.
Ouais, Genk et Malines. Parce que Genk, mais les deux déjà, ont leur destin dans leurs mains. C'est vrai que le...
Moi, c'est Cercle et Malines.
Le Cercle contre Charleroi, c'était pas bon. Hein.
Et Gand dans Playoff 2.
Genk et Gand dans les Playoff 2.
Ouais.
Moi, c'est possible. Ouais.
Cercle contre RWDM, oui, parce que RWDM ne tourne vraiment pas bien. Maintenant, Genk joue contre
Westerlo. Westerlo n'est pas encore sauvé. Et Westerlo, là, ils ont perdu quelques matchs. Et je pense que ça va prendre des points ici face à Genk.
Westerlo est sauvé si l'OHL ne gagne pas. Et je pense pas que l'OHL gagnera contre Malines.
Par rapport à l'OHL, peut encore se sauver ou pas?
S'il gagne, oui. Et que Charleroi perd, ouais.
Okay, donc c'est
la différence de but est supérieure
pour quelque chose au
HL. L'OHL doit gagner absolument. L'OHL doit gagner absolument.
Donc Malines, c'est pas gagné non plus encore. Hein.
Non.
Tu joues contre les mecs qui ont les crocs. C'est
ouais, mais là, le collectif de Malines tourne tellement bien. 20 sur 24 sur les 8 derniers matchs. Il y a vraiment ce collectif. En plus, je pense que là, Malines, ils sont vraiment sur une voie royale. Ouais. Pour leur destin entre leurs mains. Malines, ils savent, on gagne. On doit pas se soucier du résultat de gang, de la Gantoise ou quoi. On gagne, on est en playoff. Donc c'est vraiment la force de Malines.
Et Louvain, ça tourne pas. Ils ont beau avoir un super noyau, ça tourne pas. En plus, le gardien là vient de faire quasi 3 boulettes. Match, je pense que la confiance, elle va un petit peu descendre, alors qu'elle avait fait un très bon début, pas de saison, mais elle a démarré à mi-saison. Il avait fait des très bons matchs, mais je pense que non, le mental est touché du côté Louvain.
Et ils n'ont pas ce buteur. Ils tournent toujours en Brunet, Sensingui, ils ont vraiment le même Charleroi d'avoir trouvé ce vrai neuf. Pourtant, ils ont des Mazis, Steinson juste derrière, mais ils n'arrivent pas à trouver ce buteur, ce numéro 9. Et je pense que dans ces moments-là, c'est là que tu en as besoin.
Brunet, depuis qu'il a raté son transfert en dernière minute du côté de Metz, ça ne va plus du tout.
Non, mais ce qu'il a, mais de toute façon, ça n'a jamais été, je suis désolé, pour moi, il a jamais, et la boîte le.
Ce n'est que le cousin d'Alan.
Voilà, mais c'est ça, en fait. Le mec, je pense qu'il a tellement de pression, mais même, t'as vu ce qu'il a raté contre Bruges. Enfin, l'occasion qu'il a, je sais même pas pourquoi il prend de son pied gauche, il aurait pu la mettre de son pied droit, les buts, c'est 0-2 et c'est fini, hein, ils prennent les 3 points. Ouais. D'ailleurs, je suis même déçu que Louvain n'ait pas gagné contre Bruges, parce qu'on aurait eu une dernière journée, mais palpitante, hein. Tout le monde aurait eu 29 points là, derrière.
On avait prévu de faire un petit débat sur Thibaut Courtois. On va se le laisser tranquillement pour la semaine prochaine parce qu'on voit que le temps est en train de filer et ce sera aussi intéressant parce que là on a effectivement les moments les plus importants qui sont en train de se jouer dans notre championnat de Belgique. Justement, ça va nous permettre peut-être d'élargir le débat. On va passer à notre séquence découverte, le crack, la fraude. Et ça va nous permettre aussi peut-être de continuer un petit peu à papoter autour de ce championnat de Belgique. Quentin, ton crack ou ta fraude?
J'en ai beaucoup et je vais changer par rapport à ce que j'avais pensé. Au début, je vais mettre par rapport à ce qu'on a parlé de foot business.
Ouais.
Et ma fraude, je suis désolé, mais j'ai envie de mettre la chaîne qui diffuse le football en Belgique. D'avoir changé le calendrier. On a tous vécu, on connaît l'amour du football. Yannick le disait, le football, c'est le sport de la passion, sport populaire et tout. On a tous vécu d'habitude les dernières journées de championnat le même jour à la même heure. Là, je trouve, désolé, le foot business commence à changer les programmes, à mettre aussi pour des personnes, parce que désolé, mais tout le monde n'est pas au chômage. Il y a des personnes qui travaillent, qui se disaient, ben, le dimanche, je suis content d'aller voir la dernière journée au stade. Non, maintenant, mettre un samedi à 18h15 pour les supporters du Standard, je trouve ça complètement honteux. Je trouve ça, c'est un manque de respect. Parce que, ok, c'est pour les droits télé, mais c'est un manque de respect envers tes téléspectateurs, envers les fans du championnat belge. Donc moi, je trouve que c'est vraiment mon coup de gueule ici de ce week-end, c'est l'affaire des droits télé et le foot business, de mettre le Standard qui joue le samedi à 18h15, soi-disant, il n'y a plus d'enjeu, le Anderlecht qui joue le samedi soir, l'Union qui joue le dimanche à 13h, au lieu de tout le monde laisser à la même...
Ah, on sait que tu ne travailleras pas sur Eleven d'Azone.
Voilà, t'as grippé toutes tes cartes.
Thomas, ton crague ou ta fraude?
Bah, moi, je préfère. Enfin, moi, c'est la même question que tu as pu poser parce que je ne sortirai plus de fraude.
Oui, je sais, c'est l'arbitrage belge et la fraude de l'année.
Voilà. Ouais, voilà. Donc, moi, c'est crack. Moi, j'irai vers un joueur naturellement. C'est un joueur qui n'a pas démarré la rencontre. Donc, c'est un crack sans être un vrai crack. Pour moi, ça c'est un crack à en devenir, on va dire ça comme ça. C'est un joueur qui est rentré, qui avait démarré la semaine dernière. C'est un joueur de la Gantoise. Je sais pas si tu me suis, toujours pas.
Non, je te suis pas, mais je t'écoute. Non, ouais. Par contre, très attentivement.
Il est rentré face à l'Union. Il a vraiment été très bon. C'est Fernandez Pardo.
Ok.
Il a vraiment apporté quelque chose à cette équipe de la Gantoise. Il avait démarré son match face au Standard, mais malheureusement, il y a eu une rouge, donc ça a peut-être changé le système, si ça l'a. Donc, on l'a pas vraiment vu, mais là, on l'a vu en tant que joueur.
Qui est plus un ailier, de formation.
Bah oui, mais je trouve que sa position, elle est plutôt bien à côté de Tissou Dalil.
En offensive.
Ouais, ça peut vraiment le faire, et je pense que ça peut être un rôle assez important pour lui. Et c'est assez surprenant parce que le mercato d'hiver, ils avaient annoncé qu'il devait partir justement. Van Asbroek avait dit qu'il devait partir. Il avait des touches en D2 espagnol, etc. Donc je suis assez étonné qu'il ait à nouveau sa chance du côté de la Gantoise. Et il apprend vraiment, c'est un joueur qui va être très intéressant les prochaines semaines, voire les prochaines années.
Ouais, on va voir un petit peu effectivement, mais c'est bien que tu mettes en avant encore une fois les talents. Yannick, t'as eu le temps de réfléchir sur qui tu voulais mettre en avant, ton crack, ta fraude, c'est ta carte blanche. Donc tu fais
fraude,
ce que tu veux.
J'ai déjà affiché assez de trucs.
Fraude, j'ai déjà assez de problèmes comme ça, foutez-moi la paix. Voilà.
Non, fraude pas. Non, mais crack. Et je vais parler d'un joueur que j'ai eu la chance d'avoir et dont on parle peu. Et pourtant, c'est un joueur exceptionnel.
Tu peux nous la faire deviner? Genre, donner des indices?
Ok. Il joue dans un club que j'ai déjà entraîné.
Ok.
Il a entraîné toute la championne.
Problème. Quoique, il y a Saint-Tron, Malines et Standard.
Il y avait du jaune dans le maillot.
Il y a pas mal de
Malines. Il a joué dans les deux, en fait.
Il a joué dans les deux.
Milieu de terrain.
Ah, Skoufs.
Ouais, gaucher. Je me souviens, Rob, je suis arrivé à Saint-Tron en D2. Il était jeune joueur, 18-19 ans, je pense. Et la première saison, déjà, quand il y a eu ce problème avec le capitaine et qu'il est parti, j'ai mis Rob capitaine, 19 ans. Capitaine en division 2, à 19 ans. Et ça a été tout de suite, donc déjà, c'était un excellent joueur, il jouait dans la catégorie d'âge d'équipe nationale à chaque fois. C'est un joueur, il a un pied gauche exceptionnel, super intelligent, travailleur, mentaliste. Ce mec-là, il a tout.
Toujours en mouvement.
Toujours en train de prendre l'info tout le temps.
Ouais.
Et je me souviens, je l'ai, donc il était à Saint-Tron, puis de Saint-Tron, moi je suis parti au Standard. Je voulais prendre au Standard, mais il voulait pas, il est parti à Gand. Quand je suis allé à Malines après la deuxième saison, je l'ai pris à Malines, donc il est venu à Malines. C'est l'année où j'ai été viré après 11 matchs, donc j'ai plus travaillé avec lui depuis 2017. Et quand je vois maintenant, Malines au départ, quand il est venu, il y avait Ritz qui jouait à Malines à l'époque, il y avait Van Lierberg, El Messaoudi. Mmh. Donc c'était pas facile pour lui trouver sa place. Et les gens de Malines se sont dit, m'ont même dit à un moment donné, enfin, Swoves, qu'est-ce que t'as été prendre et tout. Maintenant, je crois qu'ils sont très, très, très heureux de l'avoir.
Ouais, ça, c'est sûr.
Ouais, c'est marrant parce que j'ai hésité à le prendre aujourd'hui.
Pied gauche exceptionnel, vraiment. Vraiment très, très bon.
Alors, c'est assez dingue parce que ça fait déjà 2 semaines d'affilée que le crack de notre invité, c'est Rob Skoufs. La semaine dernière, notre invité avait également, c'était Mehdi Eliassini pour le média Movecast, supporter d'Anderlecht et de médias anderlectois, qui avait mis en avant Rob Skoufs. Donc, ça fait déjà deux fois. Voilà. Ça veut dire vraiment qu'il est en train de marquer les esprits cette saison. très certainement aussi intéressant peut-être pour un club en Belgique. On sait qu'il y avait eu peut-être un passage du côté de la Gantoise.
Ouais,
de
il était à Gantoise,
il avait pas, ça ne s'était pas bien passé.
Ouais, je crois qu'il a fait une saison complète là et il jouait pas tout le temps. Après, Van Azenbroek avait un système bien prédéfini et jouer dans ce système le 3-4-3 de Van Azenbroek à l'époque avec les deux milieux de terrain, il y avait déjà des mecs à ce poste-là. Ouais. Voilà, c'était compliqué pour Schoof qui était encore jeune. Ouais. Maintenant, je pense qu'il a 30 ans. Et non, il n'est pas. Après, ce qu'il fait avec Malines, c'est magnifique. Hein. Je veux dire, il est descendu avec eux, il a gagné la coupe, le titre, il est remonté. Mais il pourrait jouer à un plus haut niveau, sans problème.
Ils auraient bien pu l'utiliser cette saison, la Gantoise, parce qu'avec toutes les blessures, Kums, etc. Ouais, donc, ouais.
Après, pourquoi aller à la Gantoise s'il est heureux là, qu'il se sent bien, il se sent apprécié, et il peut faire son truc là. Tu vois, la question, c'est pourquoi.
Oui, pour le savoir un peu, en avoir discuté avec ses anciens coéquipiers, il a aussi cette mentalité familiale qui convient très bien au KV Mechelen.
C'est ça.
Et donc, il y a quand même un espèce de petit groupuscule là avec Eremans. Voilà, il y a des petits copains qui sont ensemble, ils ont envie de rester ensemble. Ouais. Il y a aussi cette énergie-là qui existe aussi dans notre club flamand, hein, dans mon club de Bruges, on en a parlé la semaine dernière, avec où ça marche un petit peu moins d'ailleurs.
Oui, mais justement, c'est bien ça le problème là.
C'est bien ça le souci, ouais. Mais du côté de Malines, en tout cas, ça fonctionne très très bien. Je vais donner quand même mon crack parce que je trouve que c'est un joueur qui a été très bon dans le match face au Standard. Il joue du côté du KRC Genk. Je pense que tu brilles tout de suite. Non, pas Elkanous, évidemment, on en a déjà parlé mille fois d'Elkanous.
Ah ouais, justement.
On va innover un peu, mon cher Thomas. Non, je vais parler de Bonsouba.
Ah oui.
Bonsouba, le latéral ailier, pardon, ailier droit gaucher exceptionnel. Il faut savoir, je vais vous donner une petite info, qu'avant d'arriver du côté du KRC Genk, il avait à peine joué 5 matchs dans le championnat, je crois que c'était le championnat danois,
suédois.
Qu'il était déjà sur les tablettes, d'Everton et de Brighton. Ça veut dire que c'est un joueur qui est déjà repéré depuis longtemps par des clubs de première ligue. Ils ont fait, je pense, le bon choix, lui et son entourage, d'aller d'abord du côté du KRC Genk. Mais la faculté d'adaptation de ce gamin qui arrivait en plein hiver, qui a fait la différence à chaque fois sur les petits crochets courts. Oh, il a un potentiel sur la double accélération. Il a quelque chose, ce Bonsouba, que très très peu de joueurs ont pour le moment dans le championnat de Belgique. Et il est très jeune. Hein, je pense qu'il a 18 ans.
18 ans. Ouais.
Quel diamant! Quel diamant, il y a quelque chose à faire.
Il y en a un qui ressemble un peu à lui dans le même style de jeu et qui joue à l'Antwerp. J'hésitais à le prendre, j'hésitais entre lui et Fernando Pardes. Fernandez Pardo, excuse-moi. C'est Andrzejka de l'Antwerp. Il est très très bon aussi. Franchement, les deux ailiers, je pense que Lukisha, il peut s'asseoir sur le banc. Hein, franchement, Iuke et Andrzejka, c'est très fort.
Il va certainement partir cet été, Michel-Ange Balikwisha. Il y a certainement deux trois pistes pour lui du côté de la Bundesliga, notamment le club de Stuttgart qu'il apprécie. On verra évidemment s'il peut s'y épanouir, mais Andrzejka, effectivement, c'est le futur, très clairement, avec le joueur que t'adores là, Iuke, voilà, Iuke. Est incroyable, c'était Iuke.
Il est incroyable.
C'est un joueur, t'as l'impression, t'as déjà eu des joueurs comme ça, Yannick. Je pense que t'en as déjà eu un ou deux avec Dompé, avec Edmilson, mais des joueurs qui s'en foutent sur le terrain. C'est vraiment genre, ils font ce qu'ils veulent, tu peux leur demander, ils feront toujours ce qu'ils veulent.
Et tu les mets au Real Madrid, il y a aucune pression.
Ouais, c'est ça.
Les mecs, ils ont peur de rien, de personne.
C'est incroyable.
Mohamed Aoulad était comme ça.
Ouais, Mohamed Aoulad,
il était chez
Charleroi.
À Anderlecht, puis j'ai pris à Charleroi. Après, il était à Westerlo, au Cercle.
Algérien, non?
Non, belgo-marocain. Et le mec, t'aurais pu le mettre au Real Madrid, il aurait pas paniqué, quoi. Normal, il aurait fait son truc. Il aurait tenté des dribbles qu'il aurait raté peut-être après, mais il aurait fait son truc.
C'est peut-être ça aussi la clé, hein, dans le football, la gestion de la pression. Ouais. On en restera là-dessus, l'exigence et la gestion de la pression. Yannick, un merci, mais infini.
Merci,
je pense qu'on te réinvitera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec toi. Si ça, évidemment, si tu veux.
Pas mal de dessus.
Non, on a ouvert un premier chapitre. Les prochains, évidemment, ce sera durant l'été. Je pense que durant l'Euro, on aura la part belle et on t'invitera si tu es d'accord, évidemment, venir parler un petit peu de football et on en parlera, évidemment, de ce dossier Thibaut Courtois. Ce sera pour la semaine prochaine, nous deux. Et évidemment, on abordera la polémique Thibaut Courtois et les déclarations de Youri Tielemans qui, évidemment, font sens dans le contexte actuel des Diables Rouges. Quentin, merci beaucoup.
Merci à tous et merci à Yannick aussi pour les belles anecdotes, franchement.
Ouais. Plaisir.
C'était vraiment génial. Thomas.
Ouais, j'ai beaucoup moins parlé que les semaines précédentes parce que notre invité, il était incroyable. Franchement, j'ai trop kiffé, j'ai entendu des trucs super cool.
Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement dans le Clubhouse, bien évidemment, la semaine prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, c'est important pour nous, le like et les commentaires, pour savoir évidemment vos avis sur cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important également. Et puis surtout, prenez soin de vous parce que le football ne s'arrête jamais dans le Clubhouse. Ciao, ciao.